la création tout entière soupire, de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 22, les défis d'un monde à naître, enjeux et responsabilités pour tous. Session sur l'écologie intégrale, enregistrée les 22 et 23 janvier 2021 à Notre-Dame de Buglos dans les Landes, session organisée par l'antenne de théologie des Pays de la Dour, ATPA, diocèse d'Aire-et-Dax et de Bayonne. Bienvenue à toutes et à tous, voici la première intervention de cette session sur l'écologie intégrale. Qu'avons-nous fait de la Terre ? Interpellation biblique. Voici l'intervention de Catherine Putz, agrégée de lettres classiques, également licenciée canonique en théologie.
Mais je suis très heureuse d'être ici ce matin avec vous, simplement un peu impressionnée de démarrer la session, surtout devant un public éminent comme vous êtes. Pour une autre raison aussi, c'est que le thème nous invite de façon presque incontournable à prendre des textes qui sont, parmi les textes de la Bible, ceux dont l'interprétation a été le plus remise en question dans les siècles derniers. Voilà, ça c'est un... Et puis ce sont des textes que vous connaissez très bien. Voilà. Et puis, la dernière chose, c'est que nous sommes dans un temps de l'urgence et qu'on ne peut pas, me semble-t-il, parler des problèmes d'écologie aujourd'hui uniquement en termes académiques, mais c'est une question qui nous presse. Où atterrir, poser la question, interroge Bruno Latour, et maintenant, il vient même de publier « Où suis-je ?». D'où cette question que je vous propose de voir, que nous voyons ensemble, de façon, d'une manière qui nous touche, et qui est « Qu'avons-nous fait de la Terre ?». Pour aborder cette question énorme, je vous propose d'adopter une démarche, c'est-à-dire de prendre la Bible, non pas comme une succession de morceaux choisis ou découpés, mais comme un tout orienté. Et si j'ose cette démarche, c'est que d'autres l'ont fait, bien, qui ont d'autres compétences que moi l'ont fait. Je veux citer notamment Paul Beauchamp, qui écrit « La création et la préface du récit de l'histoire, qui à son tour est une mise à l'épreuve des promesses de la création ». Nous verrons donc d'abord comment le double récit de la création positionné en tête de la Bible, montre et dit ce que sont le monde, l'humanité qui s'y trouve et par conséquent leur devenir dans leur réalité profonde et dans leurs interrelations. Il donne dès lors une clé d'interprétation de l'histoire et des histoires racontées dans les livres qui suivent. Posséder la terre, habiter la terre. Que nous dit la Bible sur la façon d'exercer cette responsabilité confiée à nous, les humains, par un Dieu indissolublement présent et transcendant? Alors, au début, donc, la Genèse. Et avec ces deux récits, je précise bien qu'il n'est pas question ici de pouvoir parler de l'histoire de la réception des textes, ni même de leur datation. Je suis l'ordre canonique. En tête, un double récit de création, ce qui est intéressant. Le premier se présente comme une procession grandiose, parfaitement ordonnée par séparation à partir du chaos originel, sous l'action d'un unique créateur, Dieu. Le verbe « créer » en hébreu a cette particularité que c'est toujours Dieu qui en est le sujet, ce qui signifie que Dieu est le seul à pouvoir accomplir cette action. Or, Dieu crée par la parole. C'est un mot que sur lequel nous reviendrons. Et le mot « dabar » en hébreu signifie une parole efficace et fiable qui dit ce qu'elle fait. Il dit « la création advient ». Ajoutons qu'ainsi présenté, l'action divine déploie une maîtrise douce, puisqu'elle ne détruit rien, et elle ouvre généreusement à la vie. Un Dieu omniprésent et invisible, sujet de tous les verbes, il occupe tout l'espace du texte. Mais qui est-il véritablement? Et pourquoi veut-il que le monde soit? Le texte ne le dit pas. De sorte que si on peut entrevoir quelque chose de ce Dieu, c'est de manière indirecte, à travers la manière dont il s'y prend pour créer, et peut-être aussi à travers son image. Une nature désacralisée et autonome. Alors je m'arrête d'abord. Nature, vous ne trouverez pas le mot dans la Bible. Le mot n'existe pas. C'est un mot qui a été un concept qui a été forgé par la philosophie grecque à partir du terme physis qui signifie faire naître, avec l'idée que ce qui est de l'ordre de la nature résulte de son propre dynamisme. La Bible, elle, qui dès le premier verset, elle adopte dès le premier verset une toute autre perspective et proclame l'univers non comme nature, mais comme créature de Dieu. Ce qui implique à la fois distance et relation. Des êtres vivants autonomes. C'est ce que signifie l'insistance sur le fait qu'ils sont créés en étant capables de se reproduire, je cite, selon son espèce, dans un espace-temps désacralisé. Aucune tentation de diviniser ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Ils sont créés pour leur fonction. Ils servent à, et pour leur utilité. Des êtres vivants confiés à l'humanité. Alors, qui est-il là-dedans ? Indissociable et dépendant de tout ce qui a été créé avant lui, la nourriture notamment, l'Adam, mâle et femelle, d'emblée, créé à l'image de Dieu, est à la fois au cœur et en tête de la création. En ce sens, le récit n'est pas anthropomorphique, anthropocentrique plus exactement, et plus encore, en veillant à préserver l'harmonie du créé voulu par le Créateur, il le rend présent au monde. Et puis, le septième jour, après les six jours et les dix travaux, le texte aboutit à un jour sans travail, auquel l'auteur donne un relief tout particulier dans un style et un vocabulaire nouveau, qui le place tout à fait à part dans la séquence des jours. C'est le jour par excellence, le jour de la contemplation, mais c'est aussi, et ayons ça en tête, c'est aussi le jour où Dieu s'efface pour laisser place à ses créatures. Troisième élément sur lequel il faut insister, plutôt qu'un commencement, parlons d'un absolu à valeur programmatique, le Bereshit initial, qui ouvre le Pentateuque et la Bible tout entière, n'a pas, contrairement à ce qu'on a pu penser, n'a pas une valeur chronologique. La création ainsi présentée en est le modèle absolu, et à ce titre, on peut dire qu'elle la surplombe autant qu'elle la fonde, et elle en commande tout le devenir et en donne le sens. Les tolédotes ou histoires qui, curieusement, apparaît au verset 2-4, c'est-à-dire à la fin, alors qu'on l'attend d'habitude au début, signifie l'interdépendance de tous les éléments de la création, partie d'un tout articulé les unes avec les autres, engagées dans une histoire et confiées à la gouvernance de l'humanité. Arrivons à Genèse 2. Alors là, on change de monde. Nous découvrons une toute autre face. On passe de l'univers à la Terre, le monde s'est rétréci, modifié, les astres ont disparu de l'horizon, la Terre n'est plus que poussière et glaise. Je dirais presque d'un Dieu à l'autre. Le Dieu de Genèse 1 et le Seigneur Dieu, ce qui n'est pas neutre, de Genèse 2. Alors les deux, ils ont en commun, certes, d'être unique créateur. Mais pour le reste, Le premier est mystérieux, solitaire. Il dit et fait tout. Il s'adresse à des interlocuteurs qui ne lui répondent pas. Alors que le Dieu de Genèse 2-3 parle, mais à des personnes qui lui répondent. Et puis alors, il fait tous les métiers. Il est jardinier, potier, chirurgien, couturier, déménageur, juge d'instruction, et j'en passe. D'un Adam à l'autre. Dans le chapitre 1, l'Adam est la dernière créature de Dieu, créée d'emblée mâle et femelle. En Genèse 2-3, l'humanité est créée d'abord, avant tous les animaux, et elle est créée en deux temps. Adam indistinct, puis homme et femme. Le premier n'ouvre pas la bouche, l'homme et la femme du second sont des personnages qui parlent. Le premier règne sans tension, le second, il se comporte un peu en ado gâté qui n'a jamais assez, qui veut toujours plus. Il se débat dans une aventure qu'il dépasse, il joue à cache-cache avec son Dieu pour finir chassé de sa présence, déchiré dans sa relation avec sa femme, errant dans une nature hostile et condamné à travailler et à souffrir jusqu'à la mort. Et pourtant, cet Adam-là, ben finalement, c'est plutôt lui que nous connaissons. Il nous est bien familier dans sa liberté et sa fragilité. Ainsi, l'existence de deux récits différents et posés côte à côte nous interpelle. Elle nous oblige à réfléchir, à ne pas prendre au pied de la lettre l'un ou l'autre et à adopter plusieurs points de vue. Dans Genèse 2-3, on voit une humanité complexe entre ciel et terre. Alors d'abord, une précision. Aucune des racines des mots les plus utilisés dans la Bible pour désigner le péché ou la faute n'apparaît dans ces chapitres. Ce qui veut dire que la Bible hébraïque ne présente pas une doctrine de la faute. Elle la met en scène, ce qui est complètement différent. Et on voit une humanité qui se fourvoie. L'expérience de l'écrivain biblique lui montre une humanité à la fois malheureuse, marquée depuis toujours par le mal, physique, moral, spirituel, poussée par le désir de comprendre, de savoir, de maîtriser son existence. Sa foi, par ailleurs, nourrie de l'histoire et de l'idéal de l'Alliance, lui dit que si elle est terreuse, l'humanité est aussi appelée à une autre dimension de vie, dans une relation harmonieuse avec son Créateur. Et c'est tout cela que le récit finalement complexe met en scène. Un Adam qui cherche à grandir, à user d'une liberté qui lui permette de choisir, mais qui se fourvoie dans la façon d'exercer sa liberté. Ce qui est en question, en effet, ça n'est pas tant l'accès à la connaissance du bien et du mal. On peut même traduire, certains traducteurs le proposent, connaître bien et connaître mal. Ailleurs, la Bible parlera de sagesse. Ça, c'est tellement vrai que Dieu charge l'homme de nommer les animaux. Ce qui est en cause, ça n'est pas ça, c'est le mode d'acquisition. Prendre et manger le fruit de l'arbre, c'est en prendre possession, c'est se prendre pour Dieu au lieu de recevoir ses dons, y compris avec leurs limites. D'ailleurs, pensez à Matthieu 26-26. Jésus est avec ses amis pour le dernier repas. Écoutez ce qu'il, la séquence des verbes. Il donna leur pain et leur dit, prenez et mangez. Dans Genèse, on a, elle prit, mangea, donna. L'ordre est inversé. Les conséquences ne se font pas attendre. D'abord, le dialogue, on a parlé de la parole au début, hein. Le dialogue rompu, c'est quand tout semble en place, et quand tout paraît en place, oui, pour que se réalise le dialogue entre Dieu et ses créatures, que tout se détraque. Dans la bouche du serpent, le commandement qui était lien devient frein à l'épanouissement humain. Tout se précipite, se défait, l'homme et la femme se cachent désormais l'un devant l'autre et tous les deux devant Dieu. Ils s'accusent en cascade, les altérités fécondes de dialogue disparaissent et chacun se replie sur lui-même, ne reste que les distances qui séparent, devenues infranchissables. Infranchissables à moins que le chemin de vie soit un sentier d'espérance. Genèse 2, 3 est trop souvent lu comme le pendant négatif du récit optimiste de Genèse 1. N'est-il pas beaucoup plus riche de garder l'horizon de Genèse 1 et de comprendre dès lors que, voilé sous la forme négative de tous les désordres, le récit de Genèse 2, 3 ouvre à nous, lecteurs, un sentier d'espérance, celui du chemin de l'arbre de vie, non comme un retour en arrière, le chemin est désormais gardé, mais comme une entrée dans l'histoire. Et cette vie-là, non pas l'immortalité du serpent ou celle dont rêvent les héros mythiques, cette vie-là est sans limite, c'est celle dont nous parlera Jésus de Nazareth. Nous en arrivons maintenant donc au deuxième point qui est celui des interpellations bibliques dans l'histoire. Et j'ai choisi de prendre deux pôles qui sont posséder la terre puis habiter la terre. Alors, je vous demande dès maintenant de bien avoir en tête que je vais faire des bonds, des sauts, hein, mais il me semble que c'est parlant. Alors, la terre à cultiver, ben, d'un côté, c'est la difficulté du travail de la terre qui est soulignée. Avec la malédiction de Genèse 3, 17, 19, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon, etc., etc. Et de l'autre, l'homme le lui a bien rendu à la terre. La Bible montre une terre meurtrie par les hommes qui l'ont outragée et non ouvragée. Je reprends là la terminologie de Pascal Hyde dans Les quatre sens de la nature, de l'émerveillement à l'espérance. Écoutez par exemple le livre de Job. La terre, elle d'où sort le pain, fut ravagée en ses entrailles comme par un feu. Ses rocs sont le gisement du saphir, et là se trouve la poussière d'or. Les rapaces en ignorent le sentier, et l'œil du vautour ne l'a pas repéré, etc. Dans les rochers, on a percé des réseaux de galeries. Tout ce qui est précieux, l'œil de l'homme l'a vu. Autrement dit, l'humanité est capable de trouver ce que les animaux, même les plus féroces, ne trouvent pas. Mais ils sont capables de le trouver pour trouver de l'or ou des pierres précieuses. Alors que quand il s'agit de la sagesse, ils sont beaucoup moins inventifs. Je continue le même chapitre, le même récit. Mais la sagesse, où la trouver? Où réside l'intelligence? On en ignore le prix chez les hommes et elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. Du coup, la relation avec la terre nourricière est pervertie. Et quand on en arrive à l'agression extrême, on en arrive par exemple au récit du déluge. Relisez ce récit du déluge, vous verrez qu'il est écrit comme un écho inversé du poème de la création. Le déluge, c'est le retour au chaos d'origine, c'est la décréation. Et ici, dans la Bible, contrairement à d'autres récits du déluge, c'est parce que l'homme n'est plus image de Dieu dans ses comportements avec les autres et avec la terre que Dieu regrette de l'avoir fait. Et les conséquences sont terribles pour l'homme et pour son environnement. Mais au final, plutôt que de rétablir la création qui aurait été nettoyée par le déluge, Dieu prend acte du fait que la violence est inscrite dans l'humanité en donnant des règles pour la limiter et il s'engage à ne plus détruire sa création. L'arc-en-ciel est signe désormais de paix et de bénédiction. Je vous lis Genèse 9, verset 16. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. Le mouvement de décréation, en somme, très présent dans la Bible, n'est jamais une fin. dans son engagement avec le Créé, Dieu cherche inlassablement à renouer avec l'humanité jusqu'à la venue de Dieu lui-même par son Fils Jésus. La terre donnée, après la terre à cultiver, je parle de la terre donnée en héritage. D'abord, il y a un unique pour la Bible. Un seul peut donner la terre, un seul donateur légitime, c'est Dieu. Puisqu'il est seul à l'origine de la création, Dieu en est le seul véritable propriétaire. Le psaume 24 chante « Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable dans les flots. » Je vous ai mis quelques citations dans le dossier qui vous est donné. Et au chapitre 12 de la Genèse, Dieu, donc l'unique propriétaire, prend l'initiative de faire alliance avec le patriarche Abraham. Et au cœur de cette alliance, il y a la promesse d'une terre. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. » Abraham part sans connaître le lieu où il sera conduit et suit la très longue histoire que vous connaissez, marquée par la promesse renouvelée, la révélation du nom divin, le don de la loi et par l'alliance devenue bilatérale. Face au Dieu qui s'engage et qui l'a libéré de l'esclavage, le peuple est appelé à vivre désormais avec une relation d'amour partagé. Un chemin de confiance, comme un leitmotiv, je le rappellerai, un chemin de confiance et de liberté s'ouvre à lui, mais chaque fois, c'est un chemin qu'il devra choisir. Et hélas, vous allez le voir, la possession de la terre est souvent une possession dévoyée. Pour en parler, je vais vous raconter une histoire, comme fait si souvent la Bible, celle du pauvre Naboth. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le roi Akab a une riche propriété dans la partie la plus fertile du pays, mais influencé par Jézabel, qui est la fille du roi païen de Tyr, il s'éloigne de l'idéal de l'alliance et va jusqu'à abuser de son pouvoir pour s'enrichir lui personnellement. Et il se trouve que Naboth, c'est pour ça qu'on dit le pauvre, il a la malchance d'avoir justement une vigne qui jouxte la propriété du roi. Alors le roi va d'abord la lui demander. Et puis Naboth n'est pas d'accord, donc pas de difficulté. Akab va finalement la lui confisquer, et plus simple encore, il monte un faux procès et il le liquide, il est lapidé. Or, ça c'est très intéressant. Voici la réponse que Naboth fait au roi qui lui demande de lui céder sa vigne. « Que le Seigneur m'ait en abomination si je te cède l'héritage de mes pères. » La formulation mérite l'attention. Parce qu'elle traduit à la fois la fierté d'appartenir à la tradition monothéiste d'Israël. Le Seigneur n'est pas le Baal de Jézabel. Et aussi la conscience de n'avoir pas le droit de vendre ce qui est un don, nous y revenons, ce qui est un don, le don que le Seigneur a fait à sa lignée. Et cette histoire met en opposition deux visions, l'une pour laquelle la possession de la terre est une question économique, et l'autre, celle de la terre comme un don reçu, et reçu en même temps qu'une tradition, une culture, une religion. La question est doublée par le lien entre l'abus de pouvoir des puissants et l'équitable répartition de la terre entre tous. Piétiner les droits de celui qui est plus pauvre que moi jusqu'à prendre sa vie va souvent de pair avec l'accaparement de la terre et la confiscation à son profit personnel des biens dont tous devraient être bénéficiaires. Les prophètes n'ont cessé de dénoncer ces abus. Écoutez par exemple Ézéchiel, ainsi parle le Seigneur Dieu, malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes, n'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître? Ne vous suffit-il pas de paître un bon pâturage? Faut-il encore que vous fouliez aux pieds le reste de la pâture? Et j'avance, ainsi mon troupeau doit pâturer ce que vos pieds ont foulé, et boire l'eau que vous avez troublée. Le dérèglement des hommes bafouant les règles de l'Alliance entraîne le dérèglement social dont les indigents sont les premières victimes, et c'est finalement la création tout entière qui est déréglée et elle retourne au chaos. Là, il faudrait citer tout Amos. Écoutez ceci, vous qui vous acharnez sur le pauvre pour anéantir les humbles du pays, vous qui dites quand donc la nouvelle lune sera finie que nous puissions vendre le grain et le sabbat que nous puissions ouvrir les sacs de blé, diminuant les fats, augmentant le cycle, faussant les balances trompeuses, achetant les indigents pour de l'argent et un pauvre pour une paire de sandales. À cause de cela, la terre ne va-t-elle pas frémir? Et vous voyez le lien entre les deux. Et l'oracle continue, je ferai se coucher le soleil en plein midi et enténébrerai la terre en plein jour. Ce qui s'ensuivra ressemblera à un jour d'amertume. Nous sommes complètement dans la décréation. Alors, posséder la terre nécessite une attitude qui est d'abord une attitude intérieure. La première, écouter les leçons de la sagesse. Parce que c'est apprendre à s'ajuster à ce qui garantit l'ordre du monde et le rend à la fois bon et aimable. Lisez le Siracide ou Coëlette. Celui qui est la sagesse, au contraire, chérit la mort. Et là, nous voyons que nous sommes dans la lignée de Genèse 3. La connaissance du bien et du mal, si elle ne vient pas de Dieu, est une illusion. Elle ne peut conduire à la vie. C'est aussi la leçon de Job. Et c'est ce qui conduit à adopter une attitude d'acceptation du don dans la confiance. Et pour ça, je voudrais réfléchir avec vous à un passage de Matthieu, Matthieu 25, 14, 30, dans lequel on voit, vous savez, le maître s'absente, septième jour, il s'absente, et il confie à ses serviteurs, selon leur disponibilité, à l'un 10 talents, à l'autre moins et à l'autre 1. Et ils n'ont pas la même attitude. Alors il y a des gens qui disent, mais elle est très choquante cette histoire, c'est déjà du capitalisme, on prête encore beaucoup aux riches, et le pauvre qui n'a eu qu'un denier, il est mis dehors avec des pleurs et des clincements de dents. Et là, j'ai lu un commentaire d'André Wénin qui m'a paru tout à fait pertinent. Lui, dit-il, cette histoire, elle est à lire du point de vue de ceux qui reçoivent. Comment reçoivent-on? Il y en a un qui reçoit dans la confiance. Et on voit que à la confiance du maître répond la confiance du serviteur. Et cette confiance, cette convergence dans la confiance est créatrice de joie. Viens te réjouir avec ton maître. Alors que le second est dicté par la peur. Et la peur, elle se fonde sur l'image qu'il se fait de son maître et qu'il tient pour vrai. En réalité, la façon, notre façon de recevoir la vie, le monde et la terre trahit quelque chose de notre façon de recevoir Dieu. Sur la question de la confiance, on peut aussi lire Luc 12, 22, 31, les corbeaux et les lys, comme autant d'images qui font comprendre l'action de Dieu en continu et en faveur de chacune de ses créatures, en même temps que l'entrée dans une autre dimension du temps et de la vie qui est le royaume. Écouter les leçons de la sagesse, s'ouvrir à l'émerveillement. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est magnifique ton nom par toute la terre. En louant la majesté du Seigneur, celui qui prie dans ce psaume se reconnaît comme tellement petit qu'il n'est pas dans la maîtrise, mais qu'il peut s'ouvrir à la beauté et à la contemplation. Et dans la Bible, les psaumes, les hymnes, les cantiques nous invitent à des sortes de pauses méditatives. La fin du livre de la sagesse met en écho nature et histoire, création et salut, alliance et bonheur quotidien, dans des harmoniques que seuls la puissance du langage poétique peut exprimer. Le savant est d'autant plus grand qu'il est poète. Salomon fut le plus sage des hommes, lit-on dans le premier livre des Rois. Il prononça 3000 proverbes et ses chants sont au nombre de 1005. Il parla des arbres, aussi bien du cèdre du Liban que de l'hysope qui pousse sur le mur. Il parla des quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles, des poissons. Enfin, pratiquer la douceur, l'ensemble du psaume 37 l'affirme, ce sont les humbles, les pauvres, Anaouim en hébreu, ceux qui sont ajustés au Seigneur, qui posséderont la terre et qui jouiront de la paix. Jésus, en Matthieu 5, reprend cette idée force. Heureux, dit-il, heureux les doux, car ils auront la terre en héritage. Le terme de doux, oipais en grec, n'a rien à voir avec une quelconque mièvrerie. Les doux sont ceux qui, s'appuyant sur le Seigneur et adoptant des attitudes de bienveillance, désamorcent les violences, parfois jusqu'au risque de leur vie, sont des semeurs de l'harmonie et de la paix voulue par le Créateur. J'arrive maintenant au deuxième volet. J'ai encore combien de temps?
Pour presque. Il y a 7 minutes.
Oula, catastrophe. Parce que j'ai des choses bien à vous dire encore. Bon, alors, habiter la terre. Je vais reprendre de façon rapide le rapport entre hommes et femmes que nous avons esquissé. Dans Genèse 2-3, nous avons vu. Il y a d'abord l'Adam, qui est indifférencié sans autre précision et sans que ça pose question, semble-t-il. Or, il n'en est rien, il n'est pas bon, dit Dieu, dans un constat qui est l'inverse du reflet de Genèse 1. Or, ce qui est très intéressant, c'est de regarder le moment où Dieu se fait cette remarque. C'est exactement le moment où l'interdit vient d'être prononcé. C'est-à-dire que c'est au moment du choix, au moment d'agir avec discernement, que l'Adam a besoin d'être deux. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui donne une aide. Et attention, aide, ne le prenons pas dans un sens restreint, c'est exactement avec ça que nous avons commencé la journée. Dieu vient à mon aide. C'est le seul moment dans la Bible où ce mot est employé pour un être humain. Habituellement, c'est Dieu qui vient à l'aide, en aide de la détresse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie encore la sécularisation dont je vous parlais. L'homme a besoin de l'homme pour être aidé. Il ne faut pas attendre de quelqu'un d'autre. Or, voilà, c'est à ce moment-là qu'il reçoit cette aide. Et c'est un pivot dans la dynamique du récit. La femme est alors bâtie, puisque la côte, en fait, c'est un terme architectural, et émergeant de son sommeil, l'humain se découvre être deux, devenant en même temps et par là même l'homme masculin face à son autre féminin, et l'homme auteur d'une parole en jeu pour la première fois, et une parole dégagée de toute nécessité instrumentale. Splendeur de ce premier hymne du monde, de cet instant de nudité sans honte, de transparence et d'harmonie parfaite entre l'homme et la femme, au cœur de la création voulue par Dieu. Hélas, le dialogue ne naît pas, ni entre homme, ni entre l'homme et la femme, ni entre l'humanité et Dieu. Le dialogue reste en suspens. Le jeu masculin ne voit dans la femme que celle qui est semblable à lui, mais pas ce qui en elle est différent de lui. Le jeu n'est pas suivi d'un tu, et comment interpréter le silence de la femme? Entre Dieu et l'humanité, alors là, je dirais que c'est le venin de la troisième personne. La stratégie du serpent, c'est de mettre Dieu à distance, en parlant de lui à troisième personne. Après avoir entendu le premier hymne du monde, nous entendons susurrer la première parole de soupçon. celle qui travertit le don, il n'y aura plus alors qu'à passer du soupçon à la prise de possession. Et tout ça aboutit à une action sans parole. La femme se laisse faire, ne répond plus au serpent. Tentée, elle agit, mais elle agit toute seule, sans demander l'aide. L'homme, comme la femme, se laisse faire. Et finalement, face à l'interdit, l'homme et la femme ne cèdent pas. Le dialogue entre eux ne naît pas. Là où ils auraient pu être complémentaires, ils ne sont finalement que complices. Alors, hommes et femmes dans la Bible, je ne vais pas aborder cette question-là, ce serait beaucoup trop. Je peux seulement vous dire que ce dialogue, il y aura dans la Bible un dialogue magnifique entre le je et le tu, dans le Cantique des Cantiques, et nous verrons quelle place il a, si j'y arrive, dans la révélation finale. Autre figure de l'altérité dans la Bible, après hommes et femmes, il y a frères. Et là, je n'en parle pas beaucoup parce que ce sera un sujet traité ce matin. Frère, c'est l'histoire de Caïn et d'Abel, avec en Genèse 4, la même trame exactement que Genèse 2, 3. La relation entre, plutôt le rapport entre la relation et la parole. Quand il n'y a pas de relation, il n'y a pas non plus de parole. Et le meurtre, c'est un meurtre à l'état pur, sans un mot, sans émotion, en rase campagne. Sauf ce verset 10 dans Genèse 4. Écoute les sangs de ton frère qui du sol, je n'ai pas oublié le sujet d'aujourd'hui, qui du sol crie vers moi. C'est la force de cette image. La seule fois dans la Bible où le mot sang est sujet du verbe crier. La terre qui devait effacer jusqu'à l'existence d'Abel devient un extraordinaire porte-voix du sang visage et sang parole. Et en invitant à l'écouter, Dieu proclame fondamentalement que l'existence d'Abel, le frère, est inaliénable. Je passe là-dessus et j'en arrive à dire que la fraternité, c'est une histoire de famille, mais c'est aussi une histoire de cité. Alors, résidents et étrangers, on peut lire la parole bonne du bon samaritain en y pensant. Je vais finir peut-être par la chose qui me paraît une des plus particulièrement originale. C'est qu'avec Caïn, c'est aussi la naissance, la façon d'habiter la terre proprement humaine, c'est-à-dire celle de la vie urbaine, avec tout ce qu'elle comporte de positif. Et la Bible célèbre tout ce que l'action humaine apporte, les remarquables acquis de la technique et des arts. Mais la ville, c'est en même temps la source de toutes les dépravations et de toutes les violences. Et à l'intérieur de la ville, élargissons au thème plus large de la cité, c'est-à-dire l'organisation politique. Et là, je suis là dans le Nouveau Testament, et je voudrais évoquer avec vous comment le christianisme invente une nouvelle façon de penser la citoyenneté. Quand il est dit que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens en acte, c'est dire qu'ils ne rentrent dans aucune des catégories préexistantes. Et quant aux paroles du royaume, surtout, ce ne sont pas des paroles qui invitent à aller voir ailleurs. Elles sont terrestres, agricoles. Il est question de graines, de blé, etc. Et s'il y a rupture, c'est parce qu'elle parle d'un royaume qui n'est pas un royaume ailleurs, mais qui invite à changer de regard. Elle rend visible le royaume en rendant perceptible, et là je prends un terme de Daniel Marguerat, en rendant perceptible l'extravagance du Dieu d'amour sur la terre. Et l'affirmation selon laquelle il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, par cette affirmation, Paul, en refusant de faire du groupe chrétien un peuple ou une catégorie, signifie que l'évangile n'est pas un système législatif particulier, mais ce qui interpelle tous les systèmes législatifs et politiques. Et on arrive au dernier livre de la Bible, la Révélation ou l'Apocalypse, qui est vers la réconciliation. Je prends encore un terme de Pascal Hyde. Et vous voyez que la dernière image se finit sur une ville, voilà, ville qui est reconnue, hein, pas dans un jardin, une ville descendue d'auprès de Dieu, réconciliation entre les hommes et le Seigneur. Et dans cette ville, il y a une place, mais sur cette place pousse un arbre, réconciliation entre le jardin, entre la nature et la vie sociale. Au terme de l'histoire, les images se superposent, aucune ne pouvant épuiser ce qu'elles annoncent, et le final n'est pas une fin. Dans l'avenir que Dieu promet, il y a une place pour la nature, pour l'homme, pour le fruit de leur activité. Récapitulant cette réconciliation, l'histoire apocalyptique, c'est-à-dire révélante, débouche sur le dialogue entre le désir de Dieu et celui du cœur humain. Ce dialogue dont je vous ai parlé tout à l'heure est enfin et en plénitude celui d'un je et d'un tu qui s'interpellent et s'appellent. Il est en suspens, ouvert à tous ceux d'entre nous qui voudront y prendre part. Entre l'arbre du départ et l'arbre de la fin, qui sont forcément en tension, on a cette phrase de Jésus dans Jean, « C'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. »
Qu'avons-nous fait de la terre ? Interpellation biblique. Vous venez de suivre l'intervention de Catherine Putz, agrégée de lettres classiques et également licenciée canonique en théologie. La création tout entière soupire, de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 22, les défis d'un monde à naître, enjeux et responsabilités pour tous. Session sur l'écologie intégrale, enregistrée les 22 et 23 janvier 2021 à Notre-Dame de Buglos dans les Landes, session organisée par l'antenne de théologie des pays de la Dour, ATPA, diocèse d'Eredax et de Bayonne. Vous pouvez retrouver toutes les interventions sur le site internet de l'antenne de théologie des pays de la Dour, atpa-theologie.com.